Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour la 7e émission mensuelle de Vous à nous, on vous dit presque tout sur Principe Actif Évreux 102.4. De la période d'Halloween à la Chandeleur, il y a de nombreuses occasions de faire la fête. Aujourd'hui, nous vous parlerons des fêtes et de traditions. Nous avons avec nous en direct Madame Brigitte Carfontan, présidente des Restos du Cœur, et Madame Véronique Vailleux, référent ressources bénévoles. Nous aurons une intervention de Madame Sagémonique au sujet des fêtes en Provence, un conte raconté par Lucette, des chansons, des histoires, des informations sur les fêtes et toujours notre micro-trottoir. Notre équipe aujourd'hui est composée de Claude, Michèle et Michel, Sylvie, Guy, Marie-Claude, Florence. Sans oublier Lucette et Marie à qui nous pensons très fort. Dans le public, Sandra et Sandy du CCAS Évreux. Et bien sûr, toujours accompagné à la technique par Timothée et Jean-Jean dans un petit coin. Nous écoutons le premier micro-trottoir de l'émission.
Alors, quel type de fête vous fêtez en famille ?
Noël, le Nouvel An, Halloween,
les fêtes... Noël, le jour de l'An, Pâques, la Pentecôte, Halloween...
Oui.
Puis bah après les fêtes pour les grands, c'est-à-dire la Toussaint.
Oui.
Voilà. Ah, voilà. Donc toutes les fêtes.
Noël. Halloween.
Bah Halloween comme aujourd'hui avec les enfants. Noël. Les fêtes religieuses, hein, Pâques. Voilà.
Bah Halloween.
Halloween. Là. Ouais.
Et puis on fête toutes les fêtes chrétiennes en fait.
Oui.
Voilà.
Fête puis, du village,
ouais,
comme ça.
Ouais, aussi dans... également, ouais, la fête de la scie, la fête de la pomme, voilà. tout ce qui est festif en fait. On aime bien participer à tout, on est normand.
Noël, Pâques, Halloween. Noël, Halloween, Pâques, j'ai pas d'autres.
Noël, Pâques, qu'est-ce qu'on célèbre encore Halloween.
Oui.
Et puis... Oui, la Chandeleur, oui. Et je crois que c'est tout. Et le réveillon, enfin le...
Oui, voilà. Noël, Saint-Sylvestre.
Le réveillon, voilà, Saint-Sylvestre. Ou la Saint-Jean, parfois.
Oui.
Mais sinon, non.
Non.
Bah, la fête de Noël.
Oui. Noël.
Oui. Et quoi d'autre ?
Pâques. Nouvel An.
Il y a Pâques, le Nouvel An. Je sais pas...
Noël.
Noël.
Et à ton école, Halloween. Il y a des fêtes que tu fêtes à l'école ?
Par exemple, Noël plus souvent et Pâques.
Et Pâques.
Il y a la kermesse à ton école ?
Oui, il y a la kermesse.
En fin d'année.
Noël, Pâques.
Oui.
Halloween et Nouvel An.
Par exemple, la kermesse, tout ça ? Halloween. Après, il y a Noël, il y a Pâques. Il y a...
Le jour de l'an.
Le jour de l'an, Mardi Gras. Le 14 juillet. Après l'armistice, je sais pas si ça se fête.
Ouais, ouais.
Le 11 novembre, le 1er novembre, je sais pas si ça se fête. Et je pense que j'ai fait le tour.
Bonjour mesdames. Donc nous accueillons, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Brigitte Carfontan et Madame Véronique Vailleux. Alors je vais m'adresser en premier lieu à Madame Carfontan.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà. Présidente des Restos du Cœur et chargée de la communication, nous vous avons invité pour connaître l'impact des fêtes dans l'action des Restos du Cœur. Dans le cadre de notre émission sur les fêtes, nous trouvions intéressant d'avoir un regard décalé sur la période festive et le vécu de vos bénévoles.
Voilà. Très bien. Écoutez, effectivement, Noël, la période de Noël est importante pour les bénéficiaires, pour les gens qui ont besoin d'une aide. Tous les centres du département sont ouverts entre Noël et le jour de l'an. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et les faits marquants Noël, chaque centre a des dates différentes, sachant qu'il y en a 17 sur le département à son arbre de Noël, offre des cadeaux, des jouets aux enfants qui ont été récupérés ou par des dons ou par des... enfin, les moyens détournés. Les collèges vont effectivement font de temps en temps eux-mêmes une collecte de jouets, enfin, par différentes.
Mais par rapport à vos bénéficiaires, comment est-ce qu'ils vivent ces périodes? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Est-ce que
c'est un peu compliqué là, parce que les bénéficiaires, il y a différents profils. Il y a les retraités, il y a des gens, des familles monoparentales qui se retrouvent seules face aux problèmes. Moi, j'ai vécu personnellement, et c'était touchant, une dame qui était bénéficiaire, qui est venue, qui a essayé devant nous de composer son repas de Noël avec les produits qu'on lui proposait, hein, donc du style boîte de thon, et le fait est que, bon, c'est important pour tous. Hein.
Eh bien, une deuxième question, si vous le voulez bien. Depuis plus de 30 ans qu'existent les Restos du Cœur et la première distribution à Gennevilliers, qui sont vos bénéficiaires et combien sont-ils? Je vais vous demander sur la France d'abord, pour donner un ordre d'idée.
Ouais.
Et sur le Évreux et sa région.
Écoutez, les Restos du Cœur ont effectivement beaucoup évolué depuis le jour où Coluche a dit qu'il avait une petite idée. Et aujourd'hui, on est maintenant à l'échelon France, 73 000 bénévoles. On distribue, alors honnêtement, vous me prenez un peu de cours là. j'ai les chiffres du département de façon sûre.
Oui, c'est ceux qui vont nous intéresser.
Voilà, alors je vais passer tout de suite aux chiffres du département. Sur les 73 000, on est plus de 600 bénévoles. Un jour, c'est 605, le lendemain, 610. On a distribué, j'ai les chiffres de la dernière campagne d'hiver, on a distribué quelques 545 000 repas sur le département en 16 semaines. La campagne d'hiver commence là, elle va commencer la semaine prochaine et elle se termine mi-mars. On a accompagné quelques 7400 personnes, plus les bébés, parce qu'il y a beaucoup de bébés. On a approximativement, l'hiver dernier, aidé 400 bébés. On a également un resto chaud, le resto chaud qui est uniquement à Évreux, qui ouvre ses portes tous les midis, qui sert en moyenne 70 repas tous les jours. On a distribué l'hiver dernier 4000 repas à peu près.
Oui, bien sûr. Vous nous dites que la distribution va commencer dans les semaines à venir. Elle n'est donc pas commencée?
Non, je ne dis pas la distribution. Excusez-moi. Je dis la campagne d'hiver.
Campagne d'hiver.
Les Restos du Cœur, depuis plusieurs années déjà, sont ouverts toute l'année. Alors, on a, nous, ce qu'on appelle à l'échelon France, la campagne d'hiver, qui dure 16 semaines. Et le reste des semaines, on est optimiste, au Restos du Cœur, c'est la campagne d'été.
D'accord, merci.
L'été est très long. Mais non, les centres sont tous ouverts.
Vous fonctionnez toute l'année.
Là, ça marche aujourd'hui et ça va continuer la semaine prochaine.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui peuvent être bénéficiaires de ces aides finalement? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a les revenus jouent? Est-ce que les situations familiales jouent? Quels sont vos critères d'accueil?
Les gens qui poussent la porte des Restos du Cœur viennent avec leur justificatif de revenus et la liste de leurs dépenses. Hein. Nous sommes structurés, nous avons des gens qu'on dit être inscripteurs, un binôme de personnes qui reçoit la famille. Et effectivement, on a un barème et ils rentrent ou pas dans le barème. Les gens sont à ce moment-là, une fois qu'ils ont poussé la porte, sont accueillis, sont ou pas acceptés à l'aide alimentaire, parce que si le barème est dépassé, on ne peut pas faire grand-chose. Mais de toute façon, ils sont acceptés à toutes les aides. On fait de l'aide à la personne, ce que les gens, en règle générale, n'ont pas bien intégré. L'aide à la personne, ça va être dans un centre. On a eu la chance d'avoir un bénévole qui était coiffeur ou coiffeuse. Il va y avoir un atelier coiffeur. Vous avez poussé la porte des Restos du Cœur, vous êtes admis à ce genre d'aide. Il y a tout un tas de choses, l'aide au droit, l'aide. Voilà.
Donc c'est extrêmement encadré et avec des règles strictes, ce qui est logique dans le fonctionnement. Car l'on entend beaucoup de choses, beaucoup de sujets, c'est un petit peu pour ça que j'insiste sur ce point, que vous avez une gestion très carrée.
Tout à fait. Tout à fait.
Alors, Madame Véronique Vailleux, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre rôle au sein des Restos du Cœur ?
Alors, moi, je suis au Restos du Cœur depuis février 2019. Et depuis le début de l'année, ma mission principale au resto, c'est de trouver des nouveaux bénévoles pour travailler aussi bien dans les centres d'activité et de distribution dans tout le département que pour renforcer l'équipe administrative qui est basée au siège départemental à Gravigny.
D'accord. Bien, alors, vous pouvez profiter de l'antenne pour faire vos annonces sur vos prochaines actions, sur... allez-y, l'antenne est ouverte.
C'est vraiment formidable, parce que c'est pas toujours évident de trouver des nouveaux bénévoles. Et d'un autre côté, j'entends des bénévoles qui savent pas toujours comment rejoindre les Restos du Cœur. Alors, évidemment, les besoins sont grands. Il y a une actualité en liaison avec les fêtes de fin d'année, puisqu'on va mener une opération paquet cadeau sur le magasin boulanger d'Evreux. Et donc là, on aura besoin de renforts de bénévoles pour faire les paquets cadeaux à partir du 29 novembre et jusqu'à mi-décembre, du vendredi, samedi et dimanche. Et ensuite, sur notamment la dernière semaine du mois de décembre, avant Noël, où là, on aura besoin de renforts pour assurer tous les créneaux horaires sur tous les jours de la semaine. Donc ça, c'est vraiment la priorité absolue. Et puis, il y a une deuxième priorité, si je peux me permettre, c'est trouver des bénévoles pour travailler donc au Resto Chaud, donc en centre-ville d'Evreux, le centre resto qui permet d'accueillir tout le monde sans aucune condition et qui permet de servir des repas chauds, entrées, plats et desserts. Donc là, on a besoin de bonne volonté pour éplucher les légumes, nettoyer les fruits et faire la cuisine et le service.
Eh bien, écoutez, mesdames, je vous remercie d'être venues. J'espère que vous serez entendues et que de nombreuses personnes viendront vous rejoindre. Et c'est vrai que les fêtes de Noël sont aussi l'occasion, c'est les fêtes de fin d'année, de faire des dons aux associations. Donc, profitez-en. Je crois que les Restos du Cœur bénéficient aussi de réductions d'impôts. Donc,
absolument.
Si vous voulez faire un geste, c'est le moment.
C'est le moment. Merci.
Voilà, merci à beaucoup à vous deux. Et donc, maintenant, ça va être le tour de Marie-Claude qui va nous parler des fêtes religieuses.
Bonjour. Le thème d'aujourd'hui sur les fêtes est très large. De quoi s'agit-il ? Fêtes païennes, fêtes traditionnelles, fêtes civiles ou commémoratives, fêtes religieuses. La France est un pays laïque, sans doute le seul pays au monde, où chacun peut croire ou non, où chacun peut fêter ou pas, où chacun peut pratiquer ou pas. Qu'en est-il pour les principales religions de notre pays ? Traditionnellement et depuis des siècles, la religion chrétienne a façonné notre vie quotidienne avec un calendrier de fêtes devenu des jours fériés pour certains, et ponctuant même nos vacances. On pense bien sûr à Noël et la crèche, ou Pâques et le retour des cloches de Rome. Mais pour l'islam et le judaïsme, religion monothéiste, quelles sont les principales fêtes ponctuant la vie des croyants ? Pour les musulmans, il y a notamment le ramadan ou l'Aïd el-Kébir, dont nous avons tous entendu parler. Le ramadan, ou mois sacré, est un mois de jeûne, de partage, de remise en cause, de pardon et de spiritualité. Chaque jour débute par une prière rituelle, puis et suit un petit déjeuner en famille. À la tombée de la nuit, le jeûne est rompu. L'Aïd el-Kébir, ou fête du sacrifice ou fête du mouton, célèbre la foi d'Abraham, père fondateur de nos religions, qui allait sacrifier son fils au nom de Dieu. Celui-ci décide alors d'épargner le fils et demande à Abraham de sacrifier un mouton. Quant à la prière du vendredi, elle est collective et aussi importante que la messe du dimanche des chrétiens ou le Shabbat pour les juifs. Pour les fêtes juives, les plus importantes, on compte le Shabbat, on vient d'en parler, le Rosh Hashanah ou Nouvel An juif et le Yom Kippour. Le Rosh Hashanah ou Nouvel An juif commémore l'anniversaire de la création du monde et dure 2 jours. Elle permet de faire le bilan de l'année écoulée et de prendre de bonnes résolutions. Le Yom Kippour, ou fête du pardon, est la fête la plus connue. Elle marque la fin des 10 jours de pénitence après la fête de Rosh Hashanah. Elle permet aux pratiquants d'obtenir le pardon divin et d'être absous de ses fautes pour bien commencer la nouvelle année. Quant à la bar mitzvah, tout aussi connue, il s'agit de fêter la majorité religieuse des garçons acquise à 13 ans. Il est en âge d'accomplir les commandements de Dieu et compte parmi comme une personne. Il est évident que chaque religion comporte de nombreuses fêtes et représente des événements, des personnes, un concept ou une idéologie. Néanmoins, on y retrouve certaines constantes. Le bilan, la remise en cause, le pardon, la prière, mais aussi l'entraide, les rencontres familiales, les souvenirs, les cadeaux, les agapes et le renouveau. Voilà. Passez de très bonnes fêtes et à bientôt le mois prochain.
Dans une boîte en carton sommeillent les petits santons, le berger, le rémouleur et l'enfant Jésus rédempteur. Le ravi qui le vit est toujours ravi. Les moutons en carton sont serrés au fond. Un soir alors, paraît l'étoile d'or. Et tous les petits santons quittent la boîte de carton. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux. Et leur chant est touchant. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Le berger, comme autrefois, montre le chemin aux trois rois. Et ces rois ont poursuivant des chameaux chargés de présents. Leurs manteaux sont très beaux, dorés au pinceau, et ils ont le menton noirci au charbon. De grand matin, j'ai vu passer leur train. Ils traînaient leurs pauvres pieds sur les rochers de papier. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux. Et leur chant est tout chaud. Noël joyeux, Noël, Noël joyeux de la Provence. Dans les tables de bois blanc, il est là le divin enfant, entre le bœuf au poil roux et le petit âne à l'œil doux. Et l'enfant, agissant, murmure en dormant. Les jaloux sont des fous, humains aimez-vous. Mais au matin, joyeux Noël prend fin. Alors les petits santons regagnent la boîte en carton. Naïvement, dévotement, ils dormiront dans du coton. En rêvant du doux chant, Noël joyeux, Noël, Noël de la Provence. Dormez, chers petits santons, dans votre boîte en carton, Noël, 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 Noël.
D'écouter les santons de Tino Rossi. Tout de suite, le deuxième micro-trottoir.
Que représentent pour toi les fêtes?
Bah, les fêtes, c'est pour s'amuser.
Du bonheur.
C'est très très bien.
Des dépenses.
Une fête où on se réunit tous pour souhaiter la bonne année à tout le monde, du bonheur et que toute leur vie se passe bien.
Beaucoup de bonheur.
Oui.
Passer une belle journée avec tout le monde.
Ouais.
Bah, c'est bien les fêtes, hein. Il faut en profiter quand il y en a.
En fait, c'est un moyen pour qu'on se réunisse tous et qu'on partage des bons moments à travers une fête. Et ça permet de réunir des gens même qui viennent de loin pour que passer un bon moment.
Nous avons écouté ce micro-trottoir pour les fêtes de fin d'année. mais aussi parmi les nombreuses fêtes en France, soit coutumières, religieuses, de village ou civiles, la fête du travail est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. C'est une fête internationale. Elle tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du XIXe siècle. Au début de ce siècle, hommes, femmes et enfants travaillent 12 à 15 heures par jour dans les ateliers et les usines. En 1841, l'interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans sera étendue au moins de 13 ans. La grève générale du 1er mai 1848, 86 plutôt, pardon, aux États-Unis, impulsée par les anarchistes, est largement suivie. Le 1er mai 1890, l'événement est célébré dans la plupart des pays pour la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul et chômé. Cependant, cette fête tourne parfois au drame, tel le 1er mai 1891, dans le Nord, la fusillade de Fourmies. Dès 1890, les manifestants ont pris l'habitude, en portant à la boutonnière un triangle rouge, et quelques années plus tard, il est remplacé par la feuille d'églantine. C'est en 1907 à Paris que le muguet remplace la fleur d'églantine. À partir du XXe siècle, le muguet devient l'occasion habituelle d'offrir ce brin de muguet. En 1919, le Sénat fait du 1er mai une journée chômée. Et en 1941, le maréchal Pétain en fait la fête du travail. Mais c'est en 1947 que le 1er mai devint une fête légale, chômée et payée. Ce jour est célébré aujourd'hui dans la plupart des pays industriels, sauf aux États-Unis, où la fête du travail est célébrée le premier lundi de septembre. Par contre, avec la modernité, une magnifique fête de nos jeunes années semble avoir disparu. C'est la fête des moissons, célébrée il y a plusieurs années dans nos campagnes, que notre ami Guy va vous commenter.
Merci Claude. La Passédou, la fête à la ferme. Au mois de juillet, surtout suivant la maturité du blé, pour les importants travaux de la moisson, à cette époque, il fallait compter sur des équipes d'hommes et de femmes en plus des permanents de la ferme. La moisson, c'est rentrée des récoltes. La Passédou, c'est la fête quand tout est rentré. Il est 4 heures de l'après-midi lorsque la dernière voiturée entre dans la cour de la ferme avec un grand bouquet planté sur le chargement où sont réunies les céréales, blé, orge, avoine et fleurs des champs. Le charretier, avec sa grande fierté, colle à son cheval. Le bouquet est descendu et l'un des ouvriers va l'offrir à la maîtresse de maison en reconnaissance de ce qu'elle a fait tout au long de l'année. Les ouvriers ont quartier libre et vont se préparer pour le soir. Car ce soir, c'est la grande fête à la ferme. La maîtresse de maison, aidée des épouses et des épouses des travailleurs, depuis 2 ou 3 jours, l'avait prévu déjà et préparé. Ce soir, boucher à la reine, civet de lapin, poulet rôti, gigot d'agneau, cidre bouché, calva, le tout dans une ambiance gaie, vivante. Tous les travailleurs de la moisson sont là, chacun, chacune à sa place importante et se sent reconnu. Et s'exprime par des histoires, des plaisanteries, des chansons et danses. Même le vieux salarié retraité est là et dit toujours « Ah, dans mon temps, dans mon temps !» Le berger polonais nous a même fait une démonstration de danse cosaque. Ah, il y a de la joie, oui, il y a de la joie. Et cette joie spontanée dure parfois jusqu'à 2-3 heures du matin et reste dans les esprits plusieurs jours. C'est ça, la passée doux. C'était dans les années 50.
Changé ce matin, je n'y comprends rien.
C'est la fête, la fête.
Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité.
À pied.
C'est la fête, la fête.
Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait.
Vraiment de l'eau
que l'on peut pas autre des ruisseaux.
Venez danser dans la rue, ce n'est plus défendu.
C'est la fête, la fête.
En vérité, je vous le dis, c'est le paradis.
C'est la fête.
C'était la fête chantée par Michel Fugain. Et maintenant, nous allons écouter Madame Monique Sager qui va nous parler des fêtes en Provence.
Bonjour, je m'appelle Monique Sager. Je suis retraitée, j'étais professeure auparavant. Et c'est pas ce titre que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis née donc à Marseille. Et j'ai vécu toute mon enfance à Marseille. Et c'est donc pour vous présenter les traditions provençales de Noël que je suis donc avec vous aujourd'hui. Alors en Provence, c'est un petit peu particulier parce que en fait, la période de Noël s'étend du 4 décembre au 2 février, puisque les traditions commencent le 4 décembre et se terminent donc le 2 février, jour où on enlève la crèche. Le 4 décembre, c'est le jour de la Sainte Barbe. La Sainte Barbe, le jour de la Sainte Barbe, on doit planter en fait dans 3 soucoupes des grains de blé dans du coton humide. Et si les tiges poussent droites, c'est un bon signe, c'est-à-dire que l'année sera prospère. C'est important pour les traditions de Noël parce que c'est trois soucoupes, donc, avec le blé poussé de Sainte-Barbe. On va les mettre dans la crèche et on va les mettre aussi sur les nappes du repas de Noël. Donc, la deuxième tradition, c'est bien entendu la crèche provençale. Alors, la crèche, tout le monde l'a fait en France, mais en Provence, il y a en plus donc les santons. Les santons de Provence, alors santon, c'est santoun en provençal et ça veut dire petit saint. Et dans les santons provençaux, vous avez bien entendu la crèche, mais vous avez surtout tous les habitants du village qui viennent voir la crèche et qui viennent assister à la naissance de Jésus. Donc vous avez plus d'une centaine de santons qui arrivent donc pour voir Jésus. Et ces santons vont s'animer au moment de la messe de minuit, c'est-à-dire que la messe de minuit en Provence, vous avez ce qu'on peut appeler une pastorale, c'est-à-dire des humains hein, habillés avec les vêtements donc traditionnels de Provence et qui miment l'arrivée donc de tous les habitants et de tous les personnages de la crèche et des santons vers les tables où est né donc l'enfant Jésus. Avant la messe de minuit ou après, ça dépend des régions et ça dépend des traditions, il y a ce qu'on appelle le gros souper. Le gros souper, paradoxalement, c'est pour ça que je dis avant ou après la messe de minuit, c'est un repas maigre qui est donc servi sur une table où il y a trois nappes blanches. Trois nappes blanches pour représenter, bien entendu, la Trinité. Et il y a aussi donc sur cette table trois chandeliers qui représentent le passé, le présent et l'avenir. Et en même temps donc que on dresse la table, on met dans le feu une grosse bûche. Donc j'ai oublié le nom que ça porte, ça a un nom, hein, mais j'ai oublié le nom que ça portait. Et en général, c'est le grand-père qui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille d'aller choisir donc la plus grosse bûche d'arbre fruitier et de la mettre dans la cheminée. Et bien entendu, là aussi, c'est un signe de transmission des savoirs et des traditions. Après la messe de minuit, et là c'est toujours après, il y a bien entendu les fameux 13 desserts et c'est donc le seul extra du repas de la nuit de Noël, puisqu'avant je vous disais c'est un repas maigre, sans viande, il y a bien entendu l'anchoyade, l'ail gobulide, c'est-à-dire de l'eau, une soupe d'ail bouillie, voilà, de la morue, tout ce genre de choses. Après la messe de minuit, c'est les 13 desserts. Alors les 13 desserts, c'est très variable, hein, ce qu'il y a dans les 13 desserts, ça dépend des régions. L'essentiel, c'est qu'il y en ait 13, puisque bien entendu, c'est censé commémorer la scène, c'est-à-dire les 12 apôtres plus Jésus. Et donc, il y a quand même des incontournables dans les 13 desserts. Il y a les 4 mendiants. Les 4 mendiants qui représentent les 4 ordres de Monaco, je sais pas si on dit Monaco d'ailleurs, donc avec les noix, les noisettes, les figues, les amandes, les dattes. Alors après, donc, vous avez aussi des incontournables, vous avez le nougat blanc et le nougat noir, vous avez la pompe à huile, qui est une espèce de brioche faite à base d'huile d'olive. Vous avez la pâte de coing ou les fruits confits ou les calissons. Vous avez ce qu'on appelle les oreillettes, qui sont des espèces de pâte à beignet, on va dire ça comme ça. Et puis des fruits frais. Voilà, donc l'essentiel, c'est qu'il y en ait 13. Moi, en Normandie, depuis que je suis en Normandie, je fais les 13 desserts, mais inutile de vous dire que je ne trouve ni d'oreillettes, ni de pompe à huile. Donc, je fais en sorte qu'il y en ait 13 et je mets une bûche, à la place de la pompe à huile. Je vous ai dit tout à l'heure que ça allait jusqu'au 2 février. Le 2 février, c'est bien entendu la Chandeleur. Et c'est à cette date qu'on enlève la crèche de Noël. C'est-à-dire la crèche de Noël doit rester dans les maisons, donc du mois de décembre, à partir du moment où le blé a commencé à germer, donc vers le, si on le plante le 4, on peut dire qu'il a commencé à germer, vers le 15 ou 16 décembre à peu près, et on doit la laisser jusqu'au 2 février. Pourquoi ? Parce que, bon, bien sûr, c'est la chandeleur. Alors, en Provence, il y a les crêpes, mais il y a surtout les navettes de Saint-Victor, qui donc commémorent, en fait, deux choses. D'une part, l'arrivée des saintes au Sainte-Marie de la Mer, et parmi les saintes qui sont arrivées au Sainte-Marie de la Mer, il y a Marie-Madeleine, qui après donc être arrivée au Sainte-Marie a creusé enfin a créé en disant un sanctuaire pour commémorer la Vierge sur la Sainte-Baume hein, qui est à côté d'Auvagne, mais qui commémore en même temps le débarquement d'une Vierge noire dans le Vieux-Port. Et donc cette chandeleur au 2 février, dans l'abbaye Saint-Victor, qui est une abbaye qui domine le Vieux-Port, on fait cuire, en fait, dans le four à navette qui est à côté de cette abbaye, depuis donc la commémoration de cette Vierge Noire, du débarquement de cette Vierge Noire, on fait cuire des navettes. Des navettes, c'est des biscuits qui sont en forme de navette, de navet. Donc voilà, en provençal comme en italien, c'est-à-dire qui ont des formes de bateaux hein, et qui sont à base de fleurs d'oranger, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on pourrait appeler les traditions provençales. La seule chose que je rajouterais, c'est que on invente toujours des santons en Provence, de nouveaux santons, hein, en plus de voilà de ceux qui existent déjà et qui sont là aussi les incontournables, l'Arlésienne, le maire, le curé, Pistachier, l'aveugle et l'enfant, etc. Et récemment à Aubagne, donc qui est une des villes les plus importantes pour la fabrication des santons, on a inventé une Vierge enceinte, c'est-à-dire qu'on met dans la crèche, elle a fait scandale lorsqu'elle a été inventée, on met dans la crèche avant le 25 décembre une Marie enceinte, et une fois donc qu'elle a accouché, on met une Vierge Marie dans la crèche tout à fait normale. Et à Aubagne, maintenant, il y a un village des santons où il y a énormément, il y a plus de 1000 santons et des décors, c'est très joli. Voilà.
Merci Monique Saget. Et maintenant, que diriez-vous d'une petite balade dans le temps pour vous parler du sapin ? Traditionnellement, la trace du premier sapin de Noël, dressé spécialement pour la nativité, apparaît en Alsace. Un édit municipal à Célestat, datant de 1521, donne l'autorisation aux gardes forestiers de laisser les habitants couper de petits sapins pour fêter Noël. Et c'est à Strasbourg, 13 ans plus tard, qu'il est à nouveau fait mention d'un arbre de Noël. Dans cette même ville, les marchands de Nuremberg, assistant à la foire de décembre, propagèrent cette idée dans leur ville, puis dans toute l'Allemagne. La tradition s'étendra en Scandinavie, avant de gagner toute l'Europe, puis le Canada et les États-Unis. À noter, à la cour de France, le premier sapin apparaît en 1738. Il est dressé au château de Versailles pour l'épouse de Louis XV. En Angleterre, la coutume arrive en 1840 grâce au prince Albert, d'origine allemande, époux de la reine Victoria. Au cours des siècles, les fruits composent l'essentiel de l'ornement, mais si on y a ajouté des pains d'épices. D'après un récit, les boules apparaissent au 19e siècle en 1858. L'hiver est très rigoureux, les pommes gèlent et ne peuvent servir à la décoration. Un artisan astucieux fabrique des imitations du fruit en verre et crée ainsi les premières boules de Noël. Réalité ou simple histoire pour les enfants ? Quelle importance quand il s'agit de Noël ? Et savez-vous qui a eu l'idée des guirlandes lumineuses en remplacement des bougies placées sur le sapin ? C'est Edward Johnson, à New York, en 1882, collaborateur de Thomas Edison, qui met au point une guirlande composée de 80 petites ampoules
électrique. Le succès est immense. 8 ans plus tard, une production de guirlandes lumineuses est lancée. Donc, si le Canada et les États-Unis s'inspirent initialement de l'Europe, ce sont eux qui vont les premiers illuminer électriquement un arbre. Du XXe siècle à nos jours, le sapin est resté le symbole de la fête de Noël. Il permet à chacun de décorer sa maison, son appartement, sans afficher d'appartenance à une quelconque religion. Actuellement, qu'il soit synthétique, naturel, en bois, en osier, en fer, en tissu rembourré, ces derniers en matériaux biodégradables, nous avons le choix de le décorer selon nos goûts, traditionnels, rouge et vert, or et argent, ou bien blanc et rose, d'une décoration épurée dans le style scandinave, avec parfois des thèmes différents. Enfin, chacun y va de son imagination, afin que son sapin soit unique. Du moment que nous le parons avec notre cœur. Et maintenant, je vais évoquer l'histoire de la lettre des enfants au Père Noël et sa réponse. Devant l'affluence des lettres adressées au Père Noël, le ministre de la Poste, Jacques Maret, décide en 1962 de faire écrire par sa sœur, la psychanalyste Françoise Dolto, la réponse du Père Noël aux enfants. Les enfants, eux, ont un engouement pour envoyer une lettre au Père Noël. 5000 missives seront envoyées cette année-là. 5 ans plus tard, les services postaux doivent faire face à 50 000 courriers. Le service spécial est créé à Libourne et des écrivains endossent chacun leur tour le rôle du Père Noël. Jean-Pierre Guénaud y restera pendant 7 ans. Il constate que dans 40% des lettres, les enfants âgés de 3 à 8 ans passent commande, mais avant même de penser à eux, de demander leur cadeau, ils lui offrent leur générosité instinctive. Ils l'invitent à prendre soin de sa santé, de sa femme, de ses rennes, de ses lutins. Ils lui demandent de soulager les problèmes de leurs parents, les misères du monde, les douleurs de ceux qui souffrent. Depuis quelques années, les lettres diminuent mais sont remplacées par des emails jusqu'à 20 000 par an. À présent, je vous lis la fameuse réponse du Père Noël aux enfants de Françoise Dolto. « Mon enfant chéri, ta gentille lettre m'a fait beaucoup plaisir. Je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé. Il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je ne sais pas si je pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais je suis très vieux. Et quelquefois, je me trompe. Il faut me pardonner. Sois sage. Travaille bien. Je t'embrasse fort. Le Père Noël. » Et on retrouve maintenant notre chère Lucette, qu'on embrasse très très fort, pour son conte de Noël.
Accordez, accordez, accordez donc, l'aumône à l'accordez, accordez donc. Il était debout sur ses pattes de derrière. Il avait la fourrure soyeuse, épaisse, l'œil noir, vif. L'ours brun dansait. Il dansait au son de l'accordéon. Et plus les doigts du musicien couraient sur les touches de l'instrument, plus les pièces tombaient dans le chapeau posé là sur le sol. Les jours de bonne fortune, ils pouvaient tous les deux s'offrir un repas à l'auberge, voire une chambre. Et puis, les jours où les pièces ne tombaient pas, ou presque pas, eh bien, ils se contentaient d'un quignon de pain, ils se contentaient des fruits grappillés dans les jardins, d'un coin de grange pour dormir, ou bien d'un fossé pour passer une nuit à la belle étoile. Et justement, pendant l'été, l'ours s'est réveillé en pleine nuit. Le vieux ronflait la bouche ouverte et l'ours a dit « Je m'en vais. J'en ai assez de ce vieux qui m'oblige à danser debout sur mes pattes, qui sent mauvais et qui ronfle. » Et il est parti. Arrivé au plus profond de la forêt, il a retrouvé ses cousins, les ours sauvages, et là, il a passé le plus bel été de sa vie. Il attrapait les poissons dans la rivière, il grappillait les baies dans les buissons, il se grattait le dos le long des arbres. Mais l'automne est venu, et les autres ours, habitués qu'ils étaient, se préparaient pour l'hiver et pour l'hibernation. Mais lui, il avait toujours vécu chez les hommes, il ne connaissait pas. Il a imité ses cousins, mais quand tout le monde s'est endormi dans la grotte, lui, son sommeil n'a duré que quelques jours. Quand il s'est réveillé,
personne pour jouer avec lui, personne pour aller à la pêche. Il a mis son nez à l'ouverture de la grotte. Tout était gelé, plus de fruits. Les poissons, on ne les voyait pas, alors il a pensé au vieux musicien. Il était bien avec lui. Il devrait le retrouver. Alors il est parti. Il est allé vers les villages, guettant la musique. Mais quand on passe dans un village accompagné d'un musicien, on vous fait la fête. Mais quand on passe tout seul et qu'on est un ours brun, on vous chasse, on lâche les chiens, on lance des cailloux. Alors l'ours a décidé de ne sortir que la nuit. Ce soir-là, pourtant, il est arrivé près d'une ville. La ville était illuminée de partout. Les vitrines, les rues, des guirlandes traversaient la place. Personne ne s'occupait de l'ours. Les gens passaient avec des plats, avec des cadeaux dans les bras. L'ours ne savait pas que c'était la veille de Noël. Et puis tout à coup, il a entendu la 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 la. La musique était si triste qu'il a eu du mal à la reconnaître. Alors il a cherché et là, juste au pied du beffroi, il a aperçu le vieux musicien. Il était encore plus sale, plus maigre que lorsqu'il l'avait quitté. Et puis, il a regardé, le vieux avait la tête penchée. Il regardait le sol, aucune pièce ne tombait. Alors l'ours s'est approché. Il s'est mis sur ses pattes de derrière et il s'est mis à danser. Le vieux musicien a vu que quelque chose lui masquait la lumière, alors il a levé la tête, il a vu son ours. Alors, ses doigts ont couru sur les touches de l'accordéon. La musique est devenue vive, légère. Les gens s'arrêtaient, ils applaudissaient, ils tapaient des mains et les pièces sont tombées. Ce soir-là, le chapeau était plein. Ils sont allés faire réveillon, tous les deux, dans l'auberge. Jamais ils n'avaient fait un aussi beau réveillon. Le repas avait été somptueux et ils ont même eu le droit à une chambre confortable. Et quand ils se sont endormis ce soir-là, tous les deux, l'un contre l'autre, ce qu'ils pensaient, c'est que le plus beau réveillon qu'ils avaient vécu, c'était leur amitié retrouvée.
Connaissez-vous l'origine de la foire Saint-Nicolas à Évreux ? Elle existe depuis près de 9 siècles. Au Moyen-Âge, la lèpre faisait des ravages. Afin de lutter contre ce fléau, on construisit des léproseries, dont celle du prieuré léproserie de Saint-Nicolas d'Évreux, aujourd'hui la Maladrerie, vers 1100, sur un terrain de la paroisse de Garvigny. À cette époque, Évreux et ses alentours appartiennent au comte d'Évreux, Simon de Montfort, vassal du roi d'Angleterre pour Évreux et du roi de France pour Montfort. En 1160, Simon de Montfort décide de créer une foire aux bestiaux et aux chevaux, dont les profits iraient à la léproserie. La foire Saint-Nicolas était née. Elle avait lieu tous les 6 décembre sur une friche en face de la léproserie, entre la vieille route et le moulin de Saint-Pierre. En 1792, la commune de Gravigny consentit à transférer la foire Saint-Nicolas sur la commune d'Évreux. Elle est alors installée sur la place de l'ancien marché aux pins, qui s'appellera place Saint-Léger, puis place du Pont de l'Eure actuelle. Mais cette foire, devenue le plus grand marché des chevaux de la région, est trop à l'étroit. Il fut décidé de la déplacer sur le pré du Bédébat. Puis elle s'agrandit sur l'avenue de Breteuil, l'avenue de Cambol, la place Saint-Aurin et la rue Joséphine. Il y a 50 ans, je me souviens de ce grand rassemblement de camelots, forains et autres bonimenteurs, ainsi que d'une foule compacte de badauds, familles, enfants, d'odeurs et de couleurs diverses. Le 6 décembre prochain, si vous déambulez dans les rues de la ville au milieu de la foule, vous pourrez expliquer pourquoi la foire Saint-Nicolas existe à Évreux. Et maintenant, Sylvie nous présente la comparaison entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
Un sympathique embonpoint, de bonnes joues rouges, une barbe blanche, une longue robe richement brodée, les points communs entre le Saint-Nicolas et le Père Noël ne manquent pas. Tel son célèbre prédécesseur, ce dernier visite les maisons la nuit attendant que tous les enfants soient endormis pour commencer sa distribution de cadeaux. Tous deux arrivent au volant dans le ciel, le Saint-Nicolas sur son fidèle âne, le Père Noël grâce à ses rennes. Les plus jeunes de la famille doivent d'ailleurs veiller à laisser des lentilles, du blé, des carottes ou d'autres gourmandises pour les animaux. Petits et grands, en attendant, ont déposé sabots, chaussures ou accroché un bas de laine à la cheminée. Les deux distributeurs de cadeaux ont des hottes. Deux accrochés à l'âne de Saint-Nicolas, une seule sur le dos de son confrère. Mais l'un et l'autre vont passer par la cheminée pour descendre dans les foyers. Les seuls bruits qui les trahissent sont le tintement discret d'une petite clochette et le son cristallin d'un grelot d'argent. Leur différence va bientôt s'accentuer au cours du XXe siècle. Le Père Noël, d'abord, considéré comme le messager de l'enfant Jésus, va peu à peu devenir un personnage laïque, tandis que le Saint-Nicolas reste avant tout un personnage religieux lié à la religion protestante.
Bonjour.
Salut.
Vous?
Je viens pour l'arbre de Noël.
L'arbre de Noël?
L'arbre de Noël de la société, celle pour laquelle vous travaillez, j'imagine.
Ah oui, c'est vrai, l'arbre de Noël. Je ne savais même pas que ça existait encore, avec toutes ces lois sur la laïcité.
Vous n'avez pas d'enfants?
Pas le temps, malheureusement. Dans 20 ou 30 ans, peut-être, si la complémentaire de ma boîte accepte de rembourser la congélation de mes spermatozoïdes jusqu'à l'âge de ma retraite. Et vous, donc?
Je travaille une année sur deux pour le comité d'entreprise. Je suis intermittente. Le reste de l'année, je fais du théâtre. Mais vous savez, le théâtre...
Oui, il faut bien gagner sa vie. Et vous n'avez pas de barbe.
Vous préféreriez que j'aie une barbe?
Non, 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 vous... vous êtes tout à fait charmante comme ça. Hein. Mais pourquoi une année sur deux? Noël, c'est tous les ans. Ne me dites pas que le CE a décidé de ne fêter Noël que les années impaires pour faire des économies?
C'est à cause de la parité.
La parité?
Pour lutter contre le sexisme, le comité d'entreprise a décidé qu'une année sur deux, le Père Noël serait une femme.
Ah oui.
Si on y réfléchit bien, il n'y a pas de raison que seuls les intermittents de sexe masculin puissent espérer trouver un job d'appoint pendant les fêtes.
Je vous avoue que je n'avais jamais pensé à ça.
Pour nous, entre les arbres de Noël, les animations dans les grands magasins, les soirées privées, c'est une activité saisonnière très importante. L'année dernière, c'est ce qui m'a permis de sauver mon statut.
De Mère Noël?
D'intermittente!
Ah, bien sûr!
Et vous, vous avez des enfants?
Ah...
Non, je me suis trompée, merde.
Oh, mais vous avez l'air d'en avoir par milliers. Ah oui. Une erreur de manipulation à la décongélation de vos ovules, peut-être.
Je suis la mère, Noël. Tous les enfants sont mes enfants.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un Père Noël?
Ne me dites pas qu'à votre âge, vous vous posez encore la question.
Je voulais dire, est-ce que quand vous rentrez chez vous, il y a un Père Noël qui vous attend dans votre chaumière?
Eh bien non. Puisque vous voulez tout savoir, personne ne m'attend en bas avec un traîneau. En ce qui me concerne, en tout cas, le Père Noël n'existe pas.
C'est curieux, mais contrairement à la première fois où j'ai entendu ça, aujourd'hui j'aurais plutôt tendance à trouver que c'est une bonne nouvelle.
J'y retourne, il faut que je finisse de décorer l'arbre. Et après, j'en ai pour une heure de RER avant de rentrer chez moi.
J'ai ma voiture en bas. Moi aussi, j'ai un truc à finir et après je m'en vais. Je vous dépose si vous voulez, c'est sur mon chemin.
Je ne vous ai pas encore dit où j'habitais.
Mais je sais déjà que c'est sur mon chemin.
Ah, la magie de Noël!
Et maintenant, voici les souvenirs des Noëls de mon enfance. Noël approche, nous le savons nous tous les enfants. Maman s'avère plus que d'habitude. Elle parle du réveillon, du menu, et même chuchote avec notre tante. Elle fait de la place dans la salle à manger, papa l'aide à pousser les meubles. Puis elle part en expédition avec sa sœur pour aller chercher le sapin. Et on peut vraiment parler d'expédition, puisqu'elles partent à Paris, en transport, le chercher au magasin du printemps. Une fois trouvé, elle le ramène en autobus. Heureusement, les autobus de mon enfance étaient ouverts à l'arrière avec une grande plateforme. Comme elle riait facilement, de grands fous rires accompagnèrent le trajet du retour. Ayant évité plusieurs fois d'éborgner un passager, le sapin était si grand que l'étiquette avec le prix s'était posée sur le crâne d'un monsieur. Une fois que papa a eu installé le sapin qui touche le plafond, l'ouverture des cartons de décoration de Noël est un émerveillement. De nos petites mains, nous piochons de petits sujets, des guirlandes, des boules qui cassent, des étoiles et de petits Pères Noël. Le jour tant attendu arrive, avec oncle et tante, cousins, cousines. Nous nous attablons à la table joliment décorée. Maman est habile de ses mains, fabrique beaucoup de jolies choses et un bon repas. Arrive l'heure du coucher pour nous, les enfants. Nous collons nos visages à la fenêtre et voyons le Père Noël dans le ciel sur son traîneau avec ses rennes. Après avoir déposé nos chaussons au pied du sapin, nous allons vite dormir pour nous réveiller très tôt demain matin. Ah, j'oubliais. Nous posons une tasse de café bien chaud pour le Père Noël. Les hivers des années 55-60 sont très, très froids. Le matin, enfin arrivé, nous découvrons avec délice nos cadeaux au pied du sapin. Il y a un ou deux paquets par enfant, pas plus. La famille est modeste, mais quel bonheur. Nos chaussons sont remplis de petites douceurs, des petits Jésus roses en sucre, des bûches, des pièces d'or en chocolat et des oranges. Ces souvenirs de Noël de mon enfance me rappellent comme nous étions heureux. Cela me permet chaque année de recréer cette féerie de Noël à mon tour et d'émerveiller mes enfants et tous mes petits en famille. Merci à ma tante Rose de s'être souvenue de sa fameuse expédition avec maman dans Paris. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année en toute simplicité. Et à présent, je vais vous présenter ma chronique Bonne Nouvelle. Puisque nous approchons des fêtes et de l'achat des cadeaux, la voici. Une équipe de jeunes néerlandais a créé un jeu de cartes populaire, Vertelis, qui va changer la façon dont on interagit avec les amis, la famille, en cette période de fête. Vertelis signifie « raconte » en néerlandais. Ces jeunes fondateurs pensent que nous pouvons communiquer et nous connecter véritablement les uns aux autres grâce à ce jeu. Car, sans empêcher notre monde de devenir plus numérique, nous pouvons commencer à nous connecter les uns aux autres d'une manière qui compte vraiment. C'est donc un jeu de cartes à questions ultimes. Ensemble, les joueurs réfléchissent à l'année écoulée avec des questions comme « Pourquoi es-tu le plus reconnaissant ?» et « Quelle est la leçon la plus précieuse que tu aies apprise ?» Ces questions amènent des réponses intéressantes, créant un espace ouvert pour discuter de sujets importants. Ce jeu peut permettre aux gens de trouver plus de sens, de joie, d'épanouissement dans leurs relations. L'histoire de Lise, Bart et Lance a été partagée sur des blogs et des magazines du monde entier.
Voilà, c'est déjà la fin de notre émission de Vous à nous. Un grand merci à Timothée, Jean-Jean à la technique, toute l'équipe des seniors, Sandra et Sandy du CCAS. Tout à l'heure, nos invités du Resto du Cœur ont fait appel aux bénévoles. Pour les contacter, un numéro de téléphone, le 09 63 28 98 87 et un mail ad27.accueil.bnv-bnv@restoducœur.org. Pour continuer la fête, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête du Beaujolais. Profitez bien, mais à consommer avec modération, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, le 19 décembre, sur un autre thème à choisir parmi les milliers que nous avons dans notre besace.
Oh, j'avais encore...
Et dis-moi, tu pourrais me chanter une chanson sur Noël ?
Petit papa,
Ouais. Quand tu descendras du ciel. Ah ouais. Parmiers. N'oublie pas mon petit soulier.
Merci beaucoup.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers.
N'oublie pas
ton petit soulier.
Je m'en souviens plus.
Mais je m'en souviens plus, c'est celle de l'année dernière.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year.
Vive le vent, d'hiver. Je connais pas les portes. Oh, vive le vent. Des neiges de blanc et bonne année, grand-mère.
Merci bien.
De rien.